Charline Roux, Antoine Decaune.
Oui.
Présent.
Oui, tout à fait présent.
Eh ben, c'est pop, pop, pop.
Ben oui, c'est pop, pop, pop. Et vous, pop. On vous retrouve à 17h pour les infos, j'espère.
Eh ben oui, et pop.
Je suis rassuré. En attendant, je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour, c'est Bernie Bonvoisin dans Pop, pop, pop. Pop, 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 c'est parti.
Pop-Popien, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. J'ai une double raison de me réjouir aujourd'hui. Tout d'abord, nous recevons Sarah Giraudeau, une comédienne aux jeux subtils et dont la fragilité apparente est inversement proportionnelle à la force qui l'anime. Le Bureau des Légendes a fait sa gloire, au point qu'on a vite oublié le bureau pour ne plus se souvenir que de la légende, de la sienne en particulier. Et comme si ça ne suffisait pas à mon bonheur, nous allons, grâce à elle, évoquer la garde à vue, cette situation délicate qui jette souvent un voile de suspicion, disons même un rideau, sur ceux qui ont le désagrément d'y être soumis, quand bien même ils en ressortent blanchis. Souvenez-vous, récemment, François Fillon, Patrick Balkany, le roi du blanchiment et pas seulement dentaire, Denis Baupin ou le bien nommé, puisqu'il s'agit de garde à vue, Jean-Vincent Placé, pour ne citer qu'eux. Mais la garde à vue, c'est aussi pop. Jim Morrison, Al Pacino, David Bowie, Mike Tyson, Janis Joplin, Frank Sinatra, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Anne Roumanoff, Johnny Cash, Kurt Cobain ou Steve McQueen y sont passés. Et je pourrais continuer à les énumérer pendant l'heure entière pour vous prouver que la gardave, ça peut aussi être pop et qu'elle pend au nez des plus innocents d'entre nous. La preuve, on en parle dans Pop 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 avec Sarah Giraudeau.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Bonjour Sarah Giraudeau.
Bonjour.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop.
Merci.
Bienvenue dans cette émission qui vous ouvre ses bras et ses portes. À mes côtés, celle que je ne garde pas à vue, même si je l'ai à l'œil, Charline Roux. Bonjour Charline.
Innocente. Bonjour.
Oui, bien sûr, elles le sont toutes. Vous êtes prête à traquer le pop ?
Toujours.
Oui, toujours. Très bien. Alors, au menu de Pop Pop Pop, donc on va parler de... Criminal, la nouvelle série signée Netflix avec vous, Sarah Giraudeau, et avec Frédéric Mermoux, un des réalisateurs de la dite série tout à l'heure. Mais avant ça, ma chère Sarah, ma jolie Sarah...
Bah c'est oui. Pas de vous, ça, non?
Non, c'est pas moi, non.
Ça me semble pas très
ici,
original.
Ici, il existe une question que je vous pose en braquant sur vous le projecteur de ma sagacité. Et cette question, c'est... Pour vous, Sarah Giraudeau, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses giraudisantes, policiéreuses, criminalisantes et même saratipeuses. Et parmi mes préférées, il y a celle évidemment de Mathieu Kassovitz, alias Malotru du Bureau des Légendes.
Je pense que la pop culture est la culture de la rue qui prend sa véritable... qui devient pop quand elle est reconnue par... les médias et qu'ils la transmettent et la rendent mainstream et universelle. C'était pas tout à fait élégant, mais c'était un petit peu. C'est ce que je pense que c'est.
Bien, j'espère que vous allez être plus clair, Sarah.
Oh, je le reconnais tellement là. Non, mais c'était pas lui, très clair, mais ouais. C'était quand même au final très clair. Donc pas élégant, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je trouve qu'il y a une liberté, une rébellion dans la pop culture qui correspond. Voilà, je trouve que les gens cool sont pop généralement.
Les gens cool sont pop.
Ouais, et ceux qui écoutent beaucoup de pop culture souvent sont très ouverts sur beaucoup d'autres styles de musique.
Donc par pop culture, vous regrouperiez tout ce qui touche à la musique, à la mode.
Musique.
Au cinéma, à la littérature, tout cet environnement culturel.
Ouais, j'ai l'impression
culturel.
Que c'est une énergie de vie, de création, voilà, une énergie de vie.
Eh ben, on est
beaucoup
en plein
plus
dedans,
organisé que la réponse de Malotru.
Oui, j'ai l'impression. Oui. c'est pas le même genre d'agent non plus. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après I Wanna Be Your Girlfriend. C'est pas une déclaration que je vous fais, je vous rassure, c'est le nouveau morceau d'Ezra Furman.
All my friends are writing their resumes. My responsible friends are applying for jobs. But me, I was
considering ditching Ezra and going by Esme. Baby, would you find that so odd? My dying friends are finding religion, while my intellectual friends are all denying God. But me, I got just one ambition. I sit around all day wishing that the real me might be the one you want.
I Wanna Be Your Girlfriend, c'est extrait de 12 Nudes, le nouvel album d'Ezra Furman. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui déteste les réseaux sociaux. Est-ce Nabila, Enjoy Phoenix, Kim Kardashian ou Sarah Giraudot? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Sarah, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Petit souci de démarrage, il va falloir faire la révision. Aujourd'hui, une invitée dont on se dit que son métier lui confère une dimension définitivement animale. Ah bah si, au théâtre, on l'a vu dans La Valse des Pingouins, qui lui a valu le Molière de la Révélation, Colombe, l'Alouette, l'Envol, la définition même d'avoir des ailes, hein, vous noterez cette petite psychologie de comptoir toujours de bonne aloi. Dans le Bureau des Légendes, elle est Marina l'oiseau, même si dans le show elle est loin de vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin, jamais rien ne l'empêche d'aller plus haut. C'est pas de moi de ça non plus. On l'a vu aussi à la télé dans Les Poissons Marteaux, Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre. Je commence à me dire qu'on est clairement sur une ligne éditoriale claire et bien définie. Au ciné, elle a prêté sa voix à une tortue, la Caroline de Boulébile, et même si elle n'y était clairement pas l'animal, elle a quand même joué dans La Belle et la Bête. Et bien sûr, quel est le métier de Pascal, son personnage dans Petit Paysan, rôle qui lui a valu le César largement mérité de la meilleure actrice dans un second rôle? Vétérinaire. Alors, en définitive et en conclusion, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui ce drôle d'oiseau au magnétisme animal, Sarah Giraudot.
Merci. Joli. Charlie, mais c'est vrai.
Ouais, j'étais très aidée, hein, pour le coup.
Mais
c'était d'une évidence.
Non, mais clairement, ouais. À un moment donné, je me suis dit, mais j'ai un karma de... C'est vrai que animal, j'avais pensé oiseau. Oiseau, il y en a eu de partout. Et même une pièce l'année prochaine qui va s'appeler Le Syndrome de l'Oiseau.
Quoi?
Non, mais c'est fou. Ouais, je.
Mais c'est quoi? Ça vous poursuit ou c'est vous qui les pourchassez?
Non, pas du tout.
Non.
Je pense que ça se fait comme ça. Donc je...
Il n'y a pas de hasard dans la vie, Sarah.
C'est mieux ça. Oui, c'est ça. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Ça doit être un espèce de karma.
Donc vous êtes poursuivi par un tropisme animal et donc vous partagez avec Kim Kardashian, Enjoy Phoenix et Nabila une véritable passion hein, pour les réseaux
j'ai
sociaux.
J'ai une énorme passion.
Ouais, ça c'est un truc dont vous pouvez
non, pas. Non, c'est incontournable pour moi. Il faut que je me lève le matin, il faut que j'y aille quoi. Non, ça me.
Qu'est-ce qu'il y a, Charlie?
Je vois que vous êtes autant à fond sur les réseaux puisque vous dites Nabila.
Donc... On dit pas Nabila.
Nabila.
Nabila, ok.
Faites partie de ses followers.
Elle ne s'habilla pas. Bon, non, donc vous êtes tout à fait extérieure, étrangère à ça.
Non, je trouve que c'est utile pour beaucoup de choses, donc je me coupe aussi de beaucoup de voilà, de même par rapport à mes projets personnels et tout ça. Mais non, c'est une décision parce que je trouve que ça nous coupe complètement de la vie et surtout le rapport à l'autre est complètement différent, le rapport à soi est complètement différent. J'ai l'impression de vivre dans un monde égocentrique où on ne parle que de soi, on prend des photos de soi, on est constamment en train de donc ça m'angoisse un peu.
Très bien. Je comprends tout à fait cette angoisse. Je la ressens parfois moi-même.
Voyez-vous. Je vais la tweeter, moi.
Oui, tweetez-la tout de suite. Oui. Alors, Sarah Giraudeau, nous le disions ici, on enquête pour trouver où se cache la pop culture. Donc, je passe derrière la vitre sans teint du studio, car c'est l'heure de votre pop list.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte.
Pour le livre, Sarah Giraudeau, vous choisissez Le Rouge et le Noir de Stendhal, paru en 1830. Voici donc un livre publié il y a un peu moins de 2 siècles et qui continue à faire vibrer le cœur des jeunes femmes d'aujourd'hui. Charline, vous qui êtes, enfin, je crois, une jeune femme d'aujourd'hui, sauriez-vous m'expliquer pourquoi ?
Bah personnellement, parce que moi aussi, je me suis rêvée en Mathilde de la Mole avec votre tête sur les genoux. Vous auriez fait un très bon Julien Sorel. Reste à trouver qui pourrait être Madame de Rênal.
Sarah Giraudeau, auriez-vous
moi
auriez-vous rêvé de ça?
Non. J'ai eu beaucoup de mal de trouver les choses cultes. Parce que le culte pour moi est quand même, il y en a pas un, il y en a plusieurs des œuvres qui nous accompagnent. Donc voilà, j'ai pris des moments. Des œuvres qui ont changé un petit peu.
Alors, Le Rouge et le Noir, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Mais avec plaisir. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. « Voilà le dernier de mes jours qui commence », pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa révolution de ne point parler. Mais quand le président des Assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de Madame Derville, qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle par hasard, pensa-t-il.
Oh, c'est beau. Oh, moi, ça y est, je suis parti, là. Oh, Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est votre côté, Jeanne Masse?
Je sais pas, non, ça a été l'éveil de mes, voilà, de mon côté très romantique, amour passionnel en lecture. Voilà, je suis rentrée dans un film. C'était une des premières fois où je rentrais vraiment dans un film en livre.
C'est aussi l'ambiguïté du personnage de Julien Sorel, conduit à sa perte hein, par son ambition qui vous a séduit.
C'est peut-être la conduite à la perte et surtout, c'était la première fois...
C'est un anti-héros, quoi, d'une certaine manière.
C'est un anti-héros, et puis j'ai eu beaucoup de mal. Moi, la lecture, c'est venu quand même assez tard, et des enfants, ils sont très passionnés par ça très tôt. Moi, ça a été très laborieux. Je trouvais que c'était un effort, j'avais du mal à rentrer dans les histoires, j'avais du mal à voir le visuel qu'elle est avec, c'était... Et puis petit à petit, voilà, au milieu de l'adolescence, ce genre de livres qui m'ont tout d'un coup transformé cette vision de la lecture et que voilà, mais il y a et puis là je me souviens surtout de la passion amoureuse.
Ouais. Le ouais. Rouge et Noir. Ne vous laissez pas distraire de ces textes magnifiques hein, par la scolarité.
Non, mais non, c'est magnifique Le Rouge et Noir, vraiment.
C'est
ça peut en dégoûter justement quand c'est donné par l'école, mais non, même Émile Zola, je l'ai rencontré grâce à l'école. J'ai vraiment eu l'impression de le rencontrer. Par contre, je me suis pas rencontrée avec l'école, mais j'ai rencontré certains auteurs grâce à elle.
Bien, Sarah Giraudeau, pour le film, vous avez choisi Le Bal des Vampires de Roman Polanski, sorti en 1968. Charline, un film qui prouve à ceux qui en doutaient qu'on peut avoir les dents longues et aimer danser, n'est-ce pas ?
Oui, enfin, faut quand même faire gaffe à fermer la bouche sur une rumba sous peine de rayer le dance floor. Le Bal des Vampires raconte les aventures du professeur Abroncius qui consacre tout son temps à la traque de cette espèce effrayante et qui va réaliser que ces gens à grandes dents ne sont peut-être pas si effrayants pour peu qu'ils aient une hygiène bucco-dentaire irréprochable.
Qui a bien pu dire que les vampires ne font pas rire ? C'est du délire.
Ah !
deux hommes et leur fantastique, farfelue et fascinante chasse aux vampires. Le bal des vampires.
C'est un film qui vous a effrayé ou qui vous a fait rire, ou les deux ?
Absolument pas effrayé. C'est un film que j'ai trouvé, je l'ai vu très très tôt parce que mon frère avait 3 ans et demi plus que moi et il s'est mis à le regarder à je ne sais pas quel âge, mais j'ai dû le voir pour la première fois peut-être à 5 ans. Quoi. Mmh. Et puis ça a été pendant des années le film qu'on remettait très 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 régulièrement. Et non, je n'avais absolument pas peur, je pouvais en rire oui de temps en temps, mais j'étais surtout vraiment amoureuse de l'univers et amoureuse de Roman Polanski, mmh. qui avait un personnage extrêmement attachant, et je trouvais ce film d'une sensualité effrayante. Mmh. Donc, voilà, je me suis pris d'amour et pour les vampires et pour Polanski et pour le cinéma.
T'as un amour qui dure avec Polanski ?
Complètement. Complètement. Alors là, ce serait un de mes plus grands rêves de bosser avec lui. Je pense que là, ça n'arrivera certainement pas. Mais non, je suis toujours restée une profonde admiratrice de Roman Polanski.
Donc vous avez hâte de voir son J'accuse, j'imagine.
Exactement.
Bien, nous sommes deux. Mmh. Sarah Giraudot, pour la série, vous avez choisi, tiens, Le Bureau des légendes, la série créée par Éric Rochand, diffusée depuis 2015 sur Canal+. Charline, la saison 5 du Bureau est, je crois, en cours de finition. Et si mes informations sont bonnes, hein, Sarah Giraudot fait partie du casting. Vous confirmez ça ?
Ah ben, je vais pas griller la légende non plus. Je vais pas vous annoncer.
Ah oui,
ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, elle y a déjà été Marina Loiseau, Phénomène, Rocambole, oui, tout ça. C'est une légende de l'espionnage, en quelque sorte.
Bien. Sarah Giraudot, écoutez un extrait avec Sarah Giraudot.
Bon. Tu me sors ta salade comme ça avec ta gueule de petit chaton, mais c'est bon, on sait. Ça fait un an et demi qu'on bosse sur lui, on sait.
Mais vous savez quoi ? Je comprends rien.
Reza Mortazavi, c'est pas de la sismologie qu'il fait. Il bosse pour les Iraniens, comme toi.
Non mais, Reza, c'est pas un Iranien. Si. C'est un Iranien, mais il travaille pas pour les Iraniens. En France. En France, il travaille pour l'Institut Physique du Globe. En Iran, je sais pas du tout pour qui il travaille, c'est... C'est à la fac à Téhéran, et je comprends pas du coup là, pourquoi je suis là.
Tu comprends pas ?
Non.
Quand je te parle, là, tu comprends pas ?
Non, je comprends rien.
Extrait du Bureau des légendes, on vous teste sur votre légende hein, dans cet épisode. Ça vous arrive qu'on vous teste sur votre propre légende dans la vie réelle ?
Non. Non, mais je suis vraiment désolée pour cette réponse parce que c'est pas du tout dans mon habitude de donner. C'est que, en fait, cette série est très très présente dans ma vie depuis presque 5 ans maintenant, mais je ne regarde pas de série. Donc, oui, j'ai beaucoup
aimé. Vous ne regardez pas que Le Bureau des légendes ?
Non, c'est,
non.
Je pense que Le Bureau des légendes est Criminal. Et si j'avais vu la première saison des Revenants que j'avais trouvé super, mais sinon, je ne, plus tard peut-être, mais je ne regarde pas de série, donc j'avais pas du tout de réponse. Et comme c'est cette série-là qui me prend beaucoup de temps depuis un certain temps, voilà.
Bon, c'est un excellent choix, si vous voulez, notre avis, Sarah. Vous êtes ici au cœur du fan club du Bureau des légendes, donc nous étions ravis de pouvoir en redire un mot. On va terminer votre pop list avec votre chanson culte. Et votre chanson culte, c'est celle-ci. Heal the World, soigner le monde, une proposition faite donc par Michael Jackson en 91 et qui m'amène à me poser la question suivante, puisqu'on parle de Michael Jackson, n'est-il pas judicieux de se soigner soi-même avant de songer à soigner les autres ? Qu'en dites-vous, Sarah ?
C'est vrai. Mais on a plutôt envie de soigner les autres généralement avant soi-même.
Alors pourquoi cette chanson ?
Alors cette chanson, parce que c'est Michael déjà. Mm-hmm. Donc on ne touche pas à Michael. Et non, elle est arrivée...
L'inverse n'est pas vrai.
Non, mais c'est vrai qu'elle est arrivée encore une fois à un moment de ma vie où c'était vraiment des premières émotions musicales. Mmh. Et j'ai pleuré, j'avais envie de l'écouter tout le temps. Je trouvais qu'il y avait une vraie grâce dans la mélodie, dans la... cette petite fille qui parle au début et qui termine à la fin. Et puis qu'en plus, ma fille sera très heureuse parce que je lui ai transmis l'amour de cette chanson. Elle essaie de la chanter, c'est un peu compliqué.
Bien, alors je résume. Le Rouge et le Noir, le Bal des Vampires, le Bureau des Légendes et Michael Jackson. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Bon. Tu me sors ta salade comme ça avec ta gueule de petit chaton, mais c'est bon, on sait.
Qui a bien pu dire que les vampires ne font pas rire?
Ça fait un an et demi qu'on bosse sur lui, on sait.
C'est du délire. Deux hommes.
Tu comprends pas?
Le bal des vampires.
Quand je te parle, tu comprends pas?
Non, je comprends rien.
Il voyait devant lui les yeux de Madame Derville qui lui semblèrent bien brillants.
Nous voici dans la tête de Sarah Giraudot.
Voilà, une espèce de bazar.
un bazar assez joyeux.
Ouais,
hein,
ouais, ouais.
Avec des vampires, du Michael Jackson et du Stendhal.
Donc c'est presque un peu inquiétant du coup.
Comment?
C'est presque un peu inquiétant du coup.
Non, oui, la sensualité n'est pas là pour l'instant.
On va en parler de la sensualité, vous inquiétez pas. Sarah Giraudot, on va parler de Criminal dans la suite de Pop 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 en compagnie de Frédéric Mermoud, le réalisateur. Juste après Renegade, c'est un morceau du chanteur américain Dylan Leblanc.
Thank you.
s'appelle Popopop, Antoine Decaune
et Charline Roux. Nous sommes toujours en compagnie de Sarah.
Dans les années 60, apparemment.
Non, pop. Et vient de nous rejoindre Frédéric Mermoux, le réalisateur de la nouvelle série Netflix, Criminal. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Avant de parler du fond, parlons de la forme, car c'est un dispositif inédit. Criminal est une série en 12 épisodes qui se passe dans 4 pays, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne. Comme au théâtre, contrainte d'unité de temps et de lieu, tout se passe dans une salle d'interrogatoire et la série, c'est donc la somme de ces 12 gardes à vue. Est-ce que c'est ce cahier des charges particulièrement contraignant qui vous a séduit, Frédéric, vous qui réalisez les 3 épisodes français ?
Ouais, le dispositif qui était proposé par les showrunners anglais était assez excitant parce que, au fond, on faisait un polar dans lequel l'action allait être la parole. Mmh. Alors, en général, c'est vrai que les séries policières, elles sont remplies de péripéties, d'actions, etc. Et tout, voilà, et là, tout d'un coup, on prenait au sérieux de qu'est-ce que c'est de se battre avec le silence ou les mots, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc, je me disais, tiens, ça va créer une arène qui va permettre aux flics et aux suspects des face-à-face assez incroyables, quoi. Ça, c'était un plaisir, quoi, de se dire que le dispositif allait, au fond, faire émerger des corps et des paroles.
Alors, Sarah Giraudot, vous êtes dans le premier épisode, et vous faites l'unanimité, hein, disons les choses simplement, avec un thème particulièrement douloureux, la tragédie du Bataclan. Bande-annonce.
Une fois, il est resté pendant plus de 16 heures face aux petits parents qui se mettent à parler. L'ancien chef, il adorait. Je veux tenter autre chose.
C'est n'importe quoi.
Je te demande pas de m'apprécier, je te demande d'obéir.
Parce qu'elle était pas au Bataclan.
J'y étais là-bas. Espèce de salope de menteuse. Je vais vous faire muter en moins de temps que vous l'imaginez.
J'essaie de faire ce job en restant derrière ton miroir. Mais ça marche pas comme ça.
Y a que vous qui puissiez nous aider.
Tout ce qu'on veut, c'est la vérité.
Premier épisode de Criminal, donc diffusé sur Netflix, réalisé par vous, Frédéric Mermoux, avec vous, Sarah Giraudot. En garde à vue, suite au massacre du Bataclan, votre personnage faisait partie des survivants.
Alors, sans trop spoiler l'intrigue, le langage choisi est très surprenant. On se dit que dans le rôle de la personne interrogée, Émilie, que vous incarnez, Sarah, n'est pas nécessairement celle qu'on attendait en premier lieu sur le banc des accusés. Est-ce que c'est aussi ce twist qui vous a séduite ?
Ah ben, bien sûr. Moi, j'aime bien, tout est bon dans la contradiction. Donc non, oui, c'est ce qui m'a séduit. Le principe, la forme, comme disait Fred, était extrêmement intéressante parce que du coup, c'était d'amener une tension et puis le scénario, il y avait quelque chose qui se tissait petit à petit et tout était dans la dentelle, on va dire, au niveau du jeu. Et fallait que ce soit dans la dentelle. Alors après, j'aime bien construire un peu ces doubles facettes où situe le mensonge, où situe la vérité, et que là le personnage est très bien construit parce que justement ça touche à un sujet extrêmement difficile et qu'elle a été proche de ce sujet, enfin elle a été touchée de toute manière par ce sujet très fortement, mais de quelle manière, et ça on va s'en rendre compte pendant l'épisode.
Alors une survivante du Bataclan, c'est pas un rôle comme les autres, hein. C'est pas un rôle anodin, et, évidemment. Est-ce que vous y avez réfléchi à deux fois avant d'y aller?
Oh non. Non, parce que le scénario était génial. Et c'est-à-dire que voilà, quand on lit, on voit tout de suite si on a envie d'y mettre nos mots à nous ou pas. Et puis après, j'ai regardé, je me suis quand même nourrie en regardant les documentaires. Qui était sur Netflix d'ailleurs, et là j'avoue que j'ai plongé assez difficilement, très durement dans le sujet, et en même temps ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a mis dans une espèce de bulle où, comme notre bulle a duré quand même 5 jours, puisque chaque épisode ça dure 5 jours, c'est quand même très très court, et en même temps c'est très très dense, donc voilà, j'ai plongé là-dedans.
Frédéric, c'était votre choix d'ouvrir le bal, si je puis dire, par cet épisode?
Ouais, c'était un choix qui était assez clair. Nous, en fait, je trouve que le polar doit exprimer quelque chose, une société, quoi, au fond. Et donc, quand on a choisi des sujets qu'on allait traiter, on voulait donner une radiographie, partielle, évidemment, hein, mais de faire un état des lieux un peu de la France 2019, quoi. Mmh. Et là, c'est vrai que, bon, on était en train de réfléchir aux différents sujets possibles, et tout d'un coup, bon, ça, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça émerge? Mais je me suis dit, tiens, cette histoire-là, quelque part, je trouve qu'elle permet de parler d'un événement qui nous a tous bouleversés, touchés, violentés, et il fallait aussi pouvoir en parler de manière un tout petit peu par la bande, parce que c'est quand même un sujet qui est assez délicat, et je trouvais que c'était une manière d'en parler en étant assez respectueux de ce qui s'était passé, quoi. Mmh. Et puis après, l'autre enjeu, c'est évidemment l'actrice. Voilà, je fais quand même un compliment à Sarah, parce que c'est sûr que c'est pas un épisode qu'on peut faire avec n'importe qui, si je puis dire, et qu'il faut quelqu'un qui puisse, au fond, cristalliser cette complexité, et qui puisse, à un moment, nous aimanter. Et j'ai trouvé que c'était le talent de Sarah, quoi. C'est qu'au fond, elle nous fait... On fait un voyage avec elle et quelque part, chacun revit aussi sa propre manière d'avoir vécu des événements à l'époque.
Oui.
Il est aussi question dans les autres épisodes, notamment celui avec Jérémy Régnier de Hate Crime, avec Nathalie Baye de Lutte des classes et de Dureté du monde du travail. Ce ne sont que des thématiques très en prise avec l'actualité. C'est comme ça que vous avez conçu la série ou ça a finalement été accidentel?
Non, c'était assez conscient. Ce qui est étonnant, c'est par contre comment, en fait, inconsciemment, on trimballe des choses de l'époque, parce que quand, par exemple, Mathieu et Antonin, lorsqu'on parlait de nos sujets, Mathieu parlait de vouloir traiter de cette question de l'homophobie, et tout d'un coup, on se rendait compte que la réalité nous rattrapait, parce qu'il y avait une recrudescence des actes homophobes.
Ouais.
Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que quand on est dans cette sorte de démarche un peu créative, à la fois on est conscient, puis en même temps, on trimballe l'inconscient du collectif, quoi, quelque part, quoi. Mais par contre, ce qui était volontaire et conscient, c'était de se dire, au fond, le polar, il doit parler de ici et de maintenant. Enfin, en tout cas, c'était ça notre volonté, quoi.
Sarah, ceux qui vous connaissent disent que sous votre apparence de fleur fragile se cache une âme de guerrière. Y a-t-il des rôles dont vous rêvez et qu'on ne vous propose pas en raison de ce malentendu?
Maintenant, ça va mieux. Avant, effectivement, on voyait le petit oiseau. Et puis le théâtre, du côté du théâtre, on voyait plus la force. Et puis du côté du cinéma, on voyait le petit oiseau. Et là, ça commence à devenir un peu plus logique en fonction de qui je suis. Mais après, des rôles dont je rêve, non, j'aime beaucoup les rôles où il y a des contradictions. Après, je rêve d'un film romanesque à cheval, d'une héroïne un peu à la nuit des rois. Mais voilà, après, non, je prendrai ce qui...
Frédéric, vous avez pris bonne note, j'espère.
Ouais, absolument. Ouais. Non, mais ce que je trouve étonnant...
Parce que là, vous tenez un oiseau rare. Hein. Dans la métaphore volatile...
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que je trouve que t'as cette énergie duale, en apparence assez, entre guillemets, fragile, et en fait, t'as un vrai rouleau compresseur, si je puis dire, une puissance forte. Et en plus, Sarah, c'est aussi une actrice de composition. C'est ça qui est dingue. C'est qu'elle a cette sorte, il y a son corps, on peut pas lutter contre son corps et son énergie vitale. Et c'est vrai que t'as de la puissance. Mais en même temps, c'est une bosseuse. Mmh. Parce que quand même, hein, c'est ce que disait avant Sarah, Criminal, c'est 5 jours de tournage. Donc c'est quand même un texte énorme à prendre. Et j'avais envie de vous dire, elle était presque en condition de garde à vue, quoi. Parce que la partie, si on veut dans la salle d'interrogatoire, c'est 2 jours et demi, 3 jours de tournage. Donc c'est quasiment la garde à vue, quoi. Et c'est vrai qu'on sortait, on était, mais lessivés, quoi.
Et puis vous le disiez très justement, avec le huis clos, c'est la parole qui devient l'action. Sarah, on vous a quand même vu assez souvent, mine de rien, sur le terrain, en action. Comment est-ce qu'on aborde un personnage assis?
Ça, c'était le plus compliqué, le beaucoup de mots. Beaucoup de mots, beaucoup de mots, beaucoup de mots à construire en tant que comédien. C'est très compliqué d'un moment donné s'écarter du monotone. C'est-à-dire qu'effectivement, on devient un petit peu le maître de l'histoire à essayer de tisser une chanson, une toile. Mmh. Et quand il y a beaucoup de récits, à un moment donné, on quitte le fond pour essayer de s'attacher à une forme presque, avec faire attention au ton à des moments, aux énergies qu'on prend, pour pas que ça en devienne trop monotone, donc pour pas qu'on sorte du... Donc ça, c'était ma grosse difficulté, en plus de l'émotion, parce que c'est un personnage qui est très très émotif. Donc voilà, mais ça, c'était extrêmement intéressant à travailler.
Ça s'appelle Criminal, c'est diffusé sur Netflix, oui, avec Sarah Giraudeau, que vous écoutez en ce moment, et réalisé pour la partie française par Frédéric Mermoux. Nous faisons une petite pause dans cette conversation, si vous le voulez bien, le temps des pop news, mais auparavant j'ai une question à vous poser, est-ce que vous savez faire ça? Sarah, c'est pas très... Oui, pas
ah bah
mal,
si,
pas,
pas
mal,
mal,
pas,
mal,
pas, mal
même.
Oui, pas mal.
Sans le doigt, quoi.
Oui, Frédéric.
Moi, c'est avec le doigt.
Allez-y. Joli, voilà, un pop franc et massif. Bon, c'est pour lancer les pop news, comme je le disais.
Et tous ensemble, satisfaisons nos plus vils instincts, et ce grâce à une nouvelle fournée de Mean Tweets, ce segment de l'émission de Jimmy Kimmel dans lequel des célébrités viennent lire des tweets les concernant, pas franchement flatteurs. Avec par ordre d'apparition Will Ferrell et son problème de débit sonore, Jake Gyllenhaal et son odeur corporelle supposée, ou encore Jeff Goldblum et son côté goldblumien.
Will Ferrell is overrated. Sorry, but he just screams. It's kind of true.
Jake Gyllenhaal's smells like hot dog water. It's like a haiku. Like a beautiful, beautiful thing to say.
Jeff Goldblum is starting to annoy me now. Like, okay, dude, you're quirky. We get it. You have some weird sweaters. Good for you. I know what you're talking about. Believe you me, if I was in your shoes, I might feel the same way.
Et si vous voulez voir la chemise étrange et chamarrée de Jeff Goldblum, on vous met évidemment la vidéo dans son intégralité sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
La reprise du jour, c'est à l'idole de notre bien-aimé réalisateur Ghislain Fontanus qu'on la doit. La jeune et rebelle Billie Eilish s'attaque au Let's Get Lost d'Eliot Smith. If I can't wake up, would you still something else if I can't return your calls? No, still involved. Et avis aux fans, Billie Eilish se produira donc au festival Lollapalooza qui se tiendra les 19 et 18 juillet prochains à Paris.
Et pour les malheureux qui auraient raté notre mythique nuit de la pop culture, le rattrapage est possible en podcast, en vidéo et désormais en chanson, et ce grâce à un de nos invités, l'inénarrable sosie de Robert De Niro dans Hit, qui dans son titre Superstar nous propose sa vérité sur la soirée.
Major sosie au grand contrôle, c'est la vraie vie, pas un jeu de rôle.
Non,
l'espace d'un morceau, je serai sosie de Christy Lango dans Hit. Est-ce ma vie qui se mélange à l'art ou l'art qui se mélange au sosie? Je sais pas. Grande nuit de la pop, métronomie, Killy Smile, Killy Mieux, Bilal Hassani, Madame Arthur pour assurer
quand
ma première partie.
Je suis un roi.
Balance à 17h30.
Connard.
Je sers une demi-paluche à Relief Zan, mon premier fan.
Était cool.
La mienne est déjà moite, je parle de ma main. Prends dans mes bras Ghislain Fontana, un gros poutou à Charline Roux et un baiser à Claire-Sophie McCollet.
La suite de ce récit haletant et alcoolisé sur le SoundCloud de sosie de Robert De Niro dans Hit.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Caunes.
New. You're good, you.
Là, c'est Robert De Niro.
Sosie, vrai. Sosie de Robert De Niro dans Mafia Blues. Merci Charline, Sarah Giraudeau, Frédéric Mermou. Ne bougez pas, vous restez avec nous jusqu'à 17h. Mais tout de suite, on écoute Her Love Is Killing Me, tout nouveau morceau du groupe de rock pop américain Huey Lewis and the News, groupe fétiche du personnage d'American Psycho.
Shakes.
Huey Lewis and the News, Her Love is Killing Me. On n'avait pas entendu parler de Huey Lewis depuis 2010.
Ah oui?
Et c'est très agréable de réentendre Huey Lewis. Oui. Moi, ça me fait plaisir. Alors, vous écoutez.
Moi aussi, Antoine, écoutez
pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt, comme dit si bien Frédéric Mermoux. L'émission qui fait ça. Voilà. Alors, Frédéric Mermoux, vous avez donc réalisé Criminal, cette nouvelle série Netflix. Vous avez réalisé 3 épisodes, dont un avec Sarah Giraudeau. Nous en parlons depuis 16 heures maintenant. Dans une atmosphère anxiogène et angoissante, Criminal s'intéresse aux relations et aux tensions qui se jouent entre les policiers et les suspects. Les premiers devront faire craquer les seconds. Est-ce que vous avez poussé la conscience professionnelle, l'un de vous deux, jusqu'à vous faire mettre en garde à vue pour voir un peu à quoi ça ressemble?
Jamais.
Moi, j'ai essayé, mais les...
On n'en voulait pas.
Non.
Vous voulez pas de vous?
Non, il trouvait que j'avais une tête de premier de classe, que c'était pas crédible, donc...
Ceci étant, la garde à vue ressemble un peu à l'exercice de l'interview, hein. On est là, tous les deux, en train de vous mettre la pression pour vous... Non ?
En train de vous faire cracher le morceau.
Ah, drôlement quand même, et avec cette lumière.
Qu'on peut cracher ou pas ?
Fais-moi ta main.
Qu'est-ce que vous essayez de nous cacher, surtout ?
L'interview peut s'apparenter à ça, par moment. Pas avec nous, parce qu'on est très sympa.
Non, là, moi, non, on a juste peur. Moi, j'ai juste peur à des moments de dire des choses qu'il ne faut pas que je spoil. C'est pour ça que je suis un petit peu prudente, mais ce serait dommage.
Alors, on dit divulgacher maintenant.
Divulgacher.
Oui, divulgacher.
C'est vrai ?
Oui, mais
c'est pop.
C'est bizarre.
C'est québécois, surtout.
C'est québécois. Voilà. C'est bizarre, c'est pop. Alors, évidemment, quand on a le même thème imposé, on a tendance à jeter un coup d'œil sur la copie de ses petits camarades de classe. Qu'avez-vous pensé du travail, si vous l'avez vu, bien sûr, de vos confrères anglais, espagnols et allemands?
Ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'était que dans la prémisse, il y avait cette idée un peu du même et du différent, parce qu'on tournait tous dans le même décor. Donc la question, c'était comment est-ce que chaque pays allait s'emparer du dispositif, quoi, en quelque sorte. Et j'ai trouvé que c'était drôle, parce que justement, chaque pays, au fond, trimballe sa propre pop culture, pour le coup. Mmh. Non, mais je trouve qu'il y a un truc qui est peut-être qui est lié à ça aussi, et que chacun a une manière différente de s'emparer du dispositif. Ce qui fait que je trouve que ce qui aurait pu être un exercice un peu fastidieux au 8e, on se dit, bon, on est juste en train de voir la 8e. Non, tout d'un coup, on voit comment, au fond, ce théâtre raconte aussi des rapports de force sociétaux, si je puis dire.
Ouais.
C'était bien dit, ça, non?
Ouais.
C'est bien ça. C'est bien ça.
Mais ceci dit, pour Criminal, dans 3 pays sur 4, si je ne m'abuse, le chef d'équipe du côté des policiers est une femme. Tout ceci est arrivé sans même que vous soyez concerté. Qu'est-ce que ça raconte de la société ou à défaut de la fiction d'aujourd'hui?
Non, ça, c'était le truc qui était assez drôle. Parce que pour le coup, à un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'il allait y avoir des affaires qui allaient être redondantes? Pas du tout, il n'y a jamais eu le moindre. Alors qu'on s'était pas. Enfin, les showrunners anglais, évidemment, nous auraient dit, mais on ne se concertait pas tant que ça entre réalisateurs. Par contre, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que 3 équipes sur 4, en effet, ce sont des femmes qui sont chefs d'équipe, et on sentait qu'il y avait une volonté, en tout cas, voilà, de montrer cette chose-là qui se transforme. C'est que, au fond, les métiers qui étaient, entre guillemets, en soi-disant très masculins, au fond, maintenant, se féminisent, et ce qui est bien. Donc là, on reste, je trouve, dans l'idée que les séries sont aussi un peu le miroir du temps qui passe, quoi.
La garde à vue, c'est un 8. C'est une confrontation, c'est visuellement un exercice extrêmement périlleux. Moi, j'ai en tête un film de Mankiewicz qui s'appelle Le Limier.
Ouais.
Laurence Olivier et Michael Caine a pendant 2h30 à s'affronter dans un décor. Quels sont les plus gros écueils à éviter, à la fois pour un réalisateur et pour un acteur et une actrice?
Toi, t'en as eu pas mal des écueils.
Non, mais j'ai le sentiment qu'il ne faut pas vouloir être plus malin que le dispositif. C'est-à-dire que moi, en tout cas, mon parti pris, c'était ne fait pas du maniérisme. Parce qu'en gros, comme c'est vrai que le dispositif est assez simple, la figure de style de base, c'est quand même le chant contre chant, et pour le coup, je me suis dit, assume au fond ce dispositif, et laisse de l'espace et de la place pour les comédiens. Ça a été en tout cas moi ce qui m'a fait kiffer dans le... Donc j'ai le sentiment qu'il faut pas vouloir être plus malin que la proposition de base, et ensuite oui, il faut quand même malgré tout réfléchir après à comment on découpe, quoi.
Et pour vous, Sarah? Ça recoupe un peu la position assise dont parlait Charline tout à l'heure.
Bah c'est ça, c'est que là le dispositif, il est complètement, le comédien a une place
centrale.
Ouais. Donc voilà, après je me dis que bon, je fallait être dans l'histoire et dans le moment présent et essayer d'avoir une forme de véracité comme j'essaie d'avoir à chaque fois, et c'est un petit peu c'était ce qui était compliqué justement quand on bouge pas et qu'on est un peu centré sur vous constamment, on se dit à un moment donné les gens vont s'ennuyer, mais de faire confiance à l'histoire et à ce qui se passe vraiment sur le moment présent.
Ouais, et puis à la force de canalisation du dispositif, parce que par exemple moi, en général, quand je, dans mes films précédents, j'utilise beaucoup l'espace pour mettre en scène. J'essaie de trouver avec le comédien quel va être son déplacement dans l'espace, et j'ai le sentiment que quand on trouve ce déplacement, ça commence à être assez juste. Là, je me suis dit, mais n'essayez pas de faire des déplacements. Au fond, c'est comme si ici on se déplaçait en parlant, sur aucun sens. Ouais. Et au fond, le dispositif canalise un truc, et c'est vrai que...
Mais c'est pour ça que psychologiquement, c'était épuisant. Parce que ça n'était que du mental, en fait. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, nous, avec notre corps, que ce soit dans la mise en scène ou en tant que comédien, c'est vrai qu'il accompagne le mental. Et là, tout d'un coup, on était accompagné, le corps était complètement fixé. Donc le mental demandait énormément d'énergie.
Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on est quand même abreuvé de séries policières à la télé, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être que l'avenir est une certaine forme de simplicité, en fait, de mise en scène.
Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement de propositions en ce moment qui déferlent dans tous les canaux possibles que cette proposition-là, qui est assez simple et très épurée, assez minimaliste, au fond, elle a une vertu, c'est qu'on identifie tout de suite, on a le sentiment d'aller à l'essentiel.
Alors ça, c'est pour Criminal, qui passe sur Netflix en ce moment même, depuis vendredi, réalisé par vous, Frédéric, joué pour le premier épisode par vous, Sarah. Mais maintenant, Sarah, regardez-moi dans les yeux, écoutez ce jingle.
Breaking pop 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 news.
Ok, breaking news, vous savez ce que ça veut dire?
Non.
Et ben ce jingle signifie qu'il est temps de nous donner des infos sur la saison 5 du Bureau des Légendes.
Mais je serais incapable, je vais me faire taper sur les doigts.
Mais c'est bien, attention.
Non, cette saison 5, elle va être encore une fois géniale. Je ne peux pas vous dire si c'est la dernière ou pas, mais elle va aborder encore une fois des nouveaux sujets, des nouveaux personnages. Et,
Vous pouvez rester encore un peu plus vague, s'il vous plaît.
Ouais. Oui. Si vous n'avez pas le droit d'en connaître.
De la science-fiction.
Jacques Audiard à la réalisation sur un épisode de...
Jacques Audiard à la réalisation sur les deux derniers épisodes.
Personnages?
Non, malheureusement, moi je l'ai croisé, j'ai tourné un tout petit peu avec lui, mais c'était un bonheur, et je pense qu'ils vont avoir vraiment sa patte, les deux derniers épisodes, et qu'ils vont se mélanger un peu à la patte d'Éric, et donc ça risque d'être assez... assez détonnant.
Bon, si on insistait un peu plus, vous voyez, on vous mettrait vraiment dans une situation de garde à vue à essayer de vous
faire parler. Oui, mais vous auriez un long silence, donc à un moment donné, ce serait embêtant.
Ça ne me fait pas peur, le silence. Bon, Sarah Giraudeau, Frédéric Merbou, je vous ai déjà demandé si vous saviez faire ça, pour lancer les pop news. Maintenant, je vais vous proposer simplement d'écouter ce qui se passe. Regardez, c'est le moment pour moi d'aller chercher le dernier vinyle de cette émission, et j'y vais de ce pas. J'appelle mon ascenseur. J'ai une petite mine, moi. C'est quoi, ça?
Un gros point noir, Antoine.
C'est quoi, ça? Et d'où vient cette voix?
De l'autre côté du miroir, Antoine.
Quoi? Il y a du monde derrière le miroir de mon ascenseur?
Oui, c'est une vitre sans teint. Et on est là pour vous surveiller à la demande de France Inter.
Ah, ok. Oui, mais je connais cette voix.
Oui, c'est le petit oiseau. Je suis Sarah Giraudeau. Quand je ne tourne pas, je surveille.
Ah. Et vous avez vu des choses intéressantes, Sarah ?
Oui. On vous voit chaque jour venir ici à la fin de l'émission pour chercher le dernier vinyle, et à chaque fois, vous en profitez pour vous gratter.
Oui, bon, d'accord. Allez, envoyez un morceau. Merci. Tiens, génial idée. Nuaire, c'est nuaire.
Changer, je le trouverai.
n'est jamais trop tard. Pour moi tu gris, je n'en peux plus dans ma vie. Oh, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. C'est noir, il me reste l'espoir. Oui, gris, c'est gris, je ne veux plus d'ennui. Oh, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous.
Noir, c'est noir, et gris, c'est gris, et c'est fini. Oui, enfin, pour ce qui est de Pop Pop Pop, c'était Johnny en 66 sur l'album La Génération Perdue. Voilà, c'est ici que s'atteignent les Athéniens. Sarah Giraudeau, Frédéric Mervaux, merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui dans ce studio.
Merci
pour votre visite. Criminal, c'est en ligne sur Netflix et c'est évidemment à ne rater sous aucun prétexte. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Ronan Mahé, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, une spéciale cinéma avec Thierry Frémaux et le réalisateur Ang Lee. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Julie Lescaut à la fin de ses tutos chiffonnades de jambon sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Alors, elle a la voix de Jean Lassalle. C'est très étonnant. Elle a le même accent. Elle vient pas de la même région, Julie Lescaut.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les néo-36-15 pop-pop-pop, sur Instagram et Twitter.